Donc là, vous êtes accoudé au cinquantenaire, qui est un grand symbole du colonialisme. D'abord, en quoi est-ce que c'est un symbole du colonialisme?
En fait, c'est une œuvre commandée par Léopold II, qui était destinée à célébrer son règne et ce qu'il appelait son œuvre coloniale. Ça a été bâti en fait sur la base du pillage essentiellement du Congo, avec les richesses du Congo. Et c'est une des nombreuses œuvres architecturales qui mériterait de subir le sort, en tout cas je pense aux statues équestres de Léopold II, etc., le sort qu'ont subi les statues de Staline ou d'autres dictateurs au niveau de la planète. On s'en est félicité quand ça avait lieu dans d'autres pays. Et puis, si vous faites un tour de la Belgique, vous faites un tour de Bruxelles, vous verrez un peu partout des signes ou des symboles de la monarchie qui sont parfaitement les symboles d'un système antidémocratique et d'un passé absolument pas glorieux de la Belgique.
Alors là, au pied de ce cinquantenaire, il y a une fête pour revendiquer un autre monde qui serait possible, un monde avec un commerce plus éthique, équitable et stopper le pillage, etc. Justement, au pied de ce cinquantenaire en tant que symbole, moi, le colonialisme, on m'avait dit que ça s'était arrêté avec l'indépendance des pays colonisés. Apparemment, c'est toujours d'actualité, ce ne serait pas le cas donc.
Ah, je pense qu'il y a une recolonisation en marche. Pourquoi recolonisation? Parce que les politiques qui sont appliquées dans les pays endettés, c'est 90% des pays du tiers-monde, leurs politiques sont maintenant dictées à partir de Washington, à partir donc des institutions financières comme la Banque mondiale et le FMI, ou bien à partir du Club de Paris, qui est le club des créanciers publics, ou bien à partir du Club de Londres, qui est le club des créanciers privés. Et c'est là qu'on décide quelles politiques seront menées dans les pays du Sud. Ben, si ça, c'est du colonialisme, à savoir un abandon de souveraineté forcé par les pays du Sud. À cause du chantage, de l'arme, de la dette. Alors effectivement, le colonialisme de papa, il est dépassé, mais il y a un nouveau colonialisme.
À l'époque du colonialisme de papa, les choses étaient très claires, c'est-à-dire qu'on pensait que pour faire cesser le colonialisme, il suffisait de revendiquer et puis d'acquérir son indépendance. On a vu que ce n'était pas vrai. Les pays colonisés ont acquis pour la majorité leur indépendance et insidieusement, la colonisation a continué. Quelle serait aujourd'hui une lutte efficace de ces pays pour acquérir une réelle indépendance, c'est-à-dire une indépendance au niveau du commerce, de la gestion de leurs ressources, etc.
Et je pense que ça peut partir que de la base, que des mouvements de citoyens et de citoyennes, que de la population en général dans ces organisations économiques, ces organisations syndicales, ces organisations de jeunes, de femmes, etc. On ne peut pas attendre des gouvernements du Sud et encore moins des gouvernements du Nord qu'ils poussent eux-mêmes à une véritable souveraineté, à l'exercice d'une véritable souveraineté par les pays du Sud. En fait, il y a fondamentalement une complicité entre les régimes au pouvoir dans le sud et les régimes du nord. Cette complicité, elle se marque, y compris par des détournements d'argent, par un enrichissement personnel important, des gouvernements du sud avec la complicité du nord. On voit aussi que la corruption n'est pas du tout l'apanage du sud. On s'en rend compte avec des tas de scandales, de procès qui ont lieu dans le nord, etc. Bref, c'est pas sur eux qu'on peut se reposer pour une solution en termes d'indépendance favorable aux populations. C'est les populations elles-mêmes. Elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes. Alors, lors d'une rencontre comme celle-ci, ceux et celles qui sont là, ce sont des citoyens, des citoyennes, des représentants de mouvements du Sud qui rencontrent des représentants des mouvements du Nord. Et on essaye ensemble d'élaborer une alternative, une stratégie pour combattre des ennemis qui ont pour nom FMI, Banque mondiale, les bourses des différents pays du Nord, les multinationales, le G7, etc.
Mais pourtant, comme vous le disiez, ces institutions ont soi-disant pour but, et en tout cas affirment qu'elles sont là pour un monde plus équitable, pour faire décoller les pays les moins avancés. Et à mon sens, il y a pas mal de gens bien intentionnés, mais très mal informés, qui pensent réellement que la Banque mondiale est une œuvre de coopération-développement, le FMI idem. Est-ce que c'est en partie pour ça aussi qu'on fait des fêtes comme celle-ci, pour comment dire, convertir des non-convertis? Parce que le problème dans ces rassemblements comme celui-ci, à mon sens, c'est en partie qu'on prêche que des gens qui sont déjà convertis, qu'on atteint que des gens qui savent déjà de quoi il s'agit et qui viendront ici pour dire oui, effectivement, mais on savait déjà.
Ouais. Et donc cet événement, il est conçu il est destiné à un maximum de gens, aux couches les plus larges de la population. Maintenant, c'est pas évident de faire connaître l'existence de cet événement. Par exemple, hier, j'étais invité à Matin Première au premier programme de la RTBF, de 8h moins quart à 8h. Et je dis au journaliste qui m'invite, Jean-Pierre Jacquemin, mais donc je vais pouvoir annoncer l'activité qui aura lieu au cinquantenaire demain. Et il m'a dit, mais quelle activité? Je ne suis pas au courant. Ben, à la RTBF, on n'était pas au courant de cette activité, on n'en a pas parlé. Il se fait que j'ai pu en parler parce que j'étais interviewé, mais c'est indiqué qu'il y a du côté des grands médias, une indifférence, voire une hostilité à l'égard de ce type d'événement. Alors, ils sont conçus, et s'il y avait des dizaines de milliers de personnes ici, ben, je crois que le message les formes adoptées pour faire passer le message en termes de théâtre, en termes de travail d'artiste pictural, etc., passerait. Le problème, c'est d'arriver à ce qu'un maximum de gens soient ici. Et effectivement, il y a tout un travail énorme à faire de la part des ONG, des mouvements sociaux en général, pour réussir à s'adresser à l'ensemble de la population. Pas simplement en termes de revendications, mais en termes d'élaborer ensemble des alternatives. Je disais, le message à faire passer, quand j'ai dit ça il y a un instant, ce n'était pas dans le sens, on attend un public pour lui faire ingurgiter un discours. Le message, c'est un message d'élaboration ensemble, d'alternatives, d'échanges, etc. Ce n'est pas un message en termes de réponse toute faite.
Vous dites qu'il y a une certaine indifférence, voire hostilité, au sein des médias vis-à-vis de ce genre d'événement. Qu'est-ce qui peut, d'après vous, qu'est-ce qui vous fait dire ça et qu'est-ce qui peut, d'après vous, motiver cette hostilité?
Je pense qu'il y a une solidarité fondamentale entre les directions de ces médias, entre les chefs de rédaction, de beaucoup de rédactions de médias, et les organismes internationaux du type Banque mondiale et FMI. Ils se sentent du même côté, ils se sentent solidaires et ils trouvent qu'il y a des trublions. À qui ce serait faire trop d'honneur que de donner la parole. Il y a un conservatisme tout à fait profond dans les médias. Je veux dire, demain dimanche, il y aura les élections en Italie. Ben, on sait que le candidat de la droite, il contrôle déjà 70% des médias, et s'il devient chef du gouvernement, il contrôlera à peu près le reste. Donc, je veux dire, c'est pas quelque chose de surprenant de voir par les temps qui courent des coalitions d'intérêts de manière systématique entre des grands groupes médiatiques, le pouvoir, des grandes entreprises et des institutions internationales. Et donc les journalistes qui essaient de faire entendre une autre voix, ils sont trop peu nombreux. À mon avis, ils se battent pas assez. Quand ils se battent, il faudrait que nous, on les soutienne. Parce que quelquefois ils sont isolés lorsqu'ils affrontent l'hostilité de leur chef ou de leur collègue. Et c'est un combat fondamental, le terrain des médias.
Vous, vous êtes ici en tant que président du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Pour vous, l'annulation de la dette du tiers-monde, c'est un des ingrédients d'une lutte pour un monde meilleur, ou c'est carrément un préalable à tout développement possible des pays les moins avancés?
Ah, c'est une condition sine qua non de tout développement. C'est une condition sine qua non. Ça veut dire que c'est une condition nécessaire, mais en même temps, elle est insuffisante. Il faut annuler la dette et puis il faut prendre toute une série de mesures qui portent sur le commerce, qui portent sur la taxation du capital et notamment via la taxe Tobin, qui porte sur la démocratie, l'auto-organisation des populations, qui porte sur la lutte contre la corruption. Toutes ces dimensions-là doivent trouver des solutions adéquates et il faut un programme complet. Alors il faut bien commencer par quelque part. Je dirais ce quelque part, dans les priorités, il y a la question de la dette qu'il faut annuler, il y a la question du commerce qui est un autre point fondamental.
Les institutions internationales qui gèrent, entre guillemets, la dette des pays du tiers-monde ont pourtant annoncé un allègement, d'après elles, assez radical de cette dette. Apparemment, c'est du pipeau. Pourquoi? En bref.
Oui, c'est du pipeau, c'est de la carabistouille. Pourquoi? Parce que ces institutions n'ont aucunement l'intention de se défaire d'un instrument de subordination des pays endettés. Imaginez que si ces institutions annulaient les créances qu'elles détiennent sur les pays en question, elles n'auraient plus les moyens de leur imposer les politiques qu'elles ont envie de leur voir appliquer. Et donc, elles sont pas du tout prêtes, au-delà du discours, ailleurs que dans le discours, à annuler réellement les dettes. En pratique, ce qui est fait, c'est des allègements tout à fait cosmétiques pour quelques pays qui sont des bons élèves de ces institutions, comme l'Ouganda, par exemple, à qui on ne reproche pas par ailleurs d'occuper une partie du territoire congolais parce que ça sert les intérêts stratégiques des États-Unis. Donc il faut se faire aucune illusion sur les discours, les intentions réelles de ces institutions. Il faut un combat de la société civile, des mouvements citoyens, pour les obliger à passer du discours à la pratique.
Est-ce qu'il y a moyen avec ces institutions-là de passer du discours à la pratique? Parce que là, c'est un discours plutôt de réforme. On entend par ailleurs des discours plus radicaux d'abolition et de reconstruction d'autres choses.
Oui, non, je dis mettre sous pression, c'est-à-dire obtenir des changements de politique. Ça, c'est une chose. Mais fondamentalement, je pense que ces institutions ne peuvent pas être réformées. Leurs constitutions même sont parfaitement antidémocratiques. Il n'y a que les pays les plus riches qui ont les moyens de peser sur les décisions de ces institutions. Et donc, il faut modifier complètement le système multilatéral de financement. Il faut un fonds monétaire international qui s'occupe de stabilité monétaire. Il faut certainement une banque mondiale, mais le Fonds monétaire actuel et la Banque mondiale actuelle sont des institutions qui sont irréformables. Donc il faut les remplacer par d'autres mieux adaptées aux besoins des populations.